Chers amis auditeurs de Radio Maria France, vous voyez bien sûr, comme chaque lundi, le Père Nicolas Sautreau, habité par Dieu, méditation, réflexion du Père Nicolas sur l'œuvre de Don Marmion, le Christ vie de l'âme. C'est tout de suite sur Radio Maria France. Père Nicolas, bonsoir et bienvenue sur Radio Maria France.
Merci, bonsoir Jérôme, bonsoir chers amis. En effet, c'est la fin de notre parcours avec Don Marmion. Alors, Don Colomba Marmion meurt le mardi 30 janvier 1923. Et sa dernière messe, il la célèbre le 25 janvier 1923. Donc la dernière messe de toute sa vie, c'est pour la conversion de Saint Paul, son cher Saint Paul. Et son testament spirituel, pratiquement, il l'extrait de Saint Paul, il prend une parole de Saint Paul qui ose dire, Saint Paul, « En moi, la grâce de Dieu n'a pas été vaine. En moi, la grâce de Dieu n'a pas été vaine. » Alors, la conversion de Saint Paul, c'est un des moments où Saint Paul reçoit la révélation du mystère du corps mystique du Christ, de la doctrine du corps mystique du Christ, et c'est en lien direct avec cette espèce de testament de fin de vie de Don Marmion sur la charité fraternelle. Peut-être vous souvenez-vous qu'on raconte assez souvent qu'à la fin de sa vie, l'apôtre Saint Jean ne cessait de répéter la même chose, c'était « aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres », jusqu'à, dit-on, fatiguer un peu son auditoire. Bien, accompagné par Saint Paul et par Saint Jean, Don Marmion, inlassablement, répétera aussi, plus il avancera en âge, ce commandement du Christ, « aimez-vous les uns les autres ». La charité fraternelle surnaturelle. Tous les mots comptent. Charité fraternelle surnaturelle. Habité par Dieu, si moi je le suis, mon prochain l'est aussi, soit déjà maintenant, soit un jour dans l'espérance. C'est parce que mon prochain est habité par Dieu de cette manière-là qu'il a le droit à ma charité fraternelle surnaturelle. La charité surnaturelle que nous fait découvrir la foi, c'est que le Verbe, en s'incarnant, s'est uni mystiquement à l'humanité tout entière. Alors ne pas accepter, ne pas aimer tous ceux qui appartiennent en acte ou peuvent appartenir un jour au Christ par la grâce, c'est ne pas accepter et ne pas aimer le Christ lui-même. Et Don Marmion poursuit ce testament spirituel sur la charité fraternelle surnaturelle en disant « Nous trouvons une confirmation remarquable de cette vérité dans le récit de la conversion de Saint Paul. » Un des trois récits de la conversion de Saint Paul. Rempli de haine contre les chrétiens, il se dirige vers Damas pour emprisonner les disciples du Christ. Et voici qu'en route, il est terrassé par le Seigneur Jésus et il entend une voix qui lui dit « Pourquoi me persécutes-tu ? Pourquoi es-tu en train de me persécuter, moi, Jésus ?» Saint Paul répond « Qui es-tu, Seigneur ?» Il entend la réponse « Je suis Jésus que tu persécutes. » Le Christ ne dit pas « Pourquoi persécutes-tu mes disciples ?» Non, il s'identifie mystiquement avec eux et les coups que Saint Paul, le persécuteur, porte aux chrétiens atteignent le Christ lui-même. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et c'est dans cette expérience fondamentale, cette expérience qui déclenche la doctrine finalement, du corps mystique du Christ, c'est dans cette expérience que Don Marmion dit qu'il trouve la confirmation la plus remarquable de tout ce mystère de la charité fraternelle. Nous avons parlé, je me souviens au début, d'une recherche des sources de la doctrine de Don Marmion, et parmi les sources de la doctrine, il y a sa lecture inlassable de la vie des saints. Il avait toujours au moins une vie de saint par plusieurs sous le coude, c'est-à-dire soit au scriptorium, soit dans la stalle au cœur, soit dans sa cellule, et inlassablement, il lisait des victimes. Alors, on va en avoir un petit exemple dans la suite de son texte, qui du coup devient un peu plus léger, un petit peu moins dogmatique. Il nous dit « La vie des saints abonde en traits de ce genre. Saint Martin de Tours, un soldat qui n'est même pas encore baptisé, voici qu'il rencontre un pauvre sur son chemin, il partage avec lui son vêtement. La nuit suivante, le Christ apparaît à Saint Martin, revêtu de la portion du manteau qu'il avait donné au pauvre. Et Saint Martin, ravi, entend ces paroles, « C'est toi qui m'as vêtu de cet habit. » Sainte Élisabeth de Hongrie, un jour, en l'absence de son mari, elle rencontre un lépreux abandonné de tous. Elle le prend et le porte sur son propre lit. Le duc, son mari, à son retour, apprend la nouvelle et, rempli de colère, il veut chasser le lépreux. Et en s'approchant de lui, il voit la figure du Christ crucifié. Dans la vie de Sainte Catherine de Sienne, un jour, elle se trouvait dans l'église des frères prêcheurs. Un pauvre vint à elle et lui demanda l'aumône pour l'amour de Dieu. Elle n'avait rien à lui donner, car elle ne portait habituellement sur elle ni or ni argent. Elle pria donc le mendiant d'attendre qu'elle fût rentrée à la maison, promettant qu'alors elle lui ferait volontiers et largement l'aumône de tout ce qu'elle pourrait trouver chez elle. Mais le pauvre insista, « Si vous avez quelque chose dont vous disposez, je vous le demande ici, car je ne puis attendre aussi longtemps. » Sainte Catherine, anxieuse, cherchait ce qu'elle pourrait lui accorder pour subvenir à ses besoins. Elle finit par trouver sur elle une petite croix en argent. Aussitôt, elle la donne avec joie aux pauvres, qui s'éloignent tout contents. La nuit suivante, le Seigneur Jésus apparaît à la sainte. Il avait en main la petite croix, mais ornée de pierres précieuses. « Reconnais-tu cette croix, ma fille ?»« Certainement, je la reconnais, mais elle n'est pas si belle. Elle n'était pas si belle quand elle était à moi. » Le Seigneur reprit, « Tu me l'as donnée hier par amour de la charité. C'est cet amour que signifient les pierres précieuses. Je te promets qu'au jour du jugement, devant toute l'assemblée des anges et des hommes, je te présenterai cette croix telle que tu la vois, afin que ta joie soit au comble. En ce jour où je manifesterai solennellement la miséricorde et la justice de mon Père, je ne laisserai pas ignorer l'œuvre de miséricorde que tu as accomplie envers moi. » Dom Marmion commente, « Le Christ est devenu notre prochain, ou plutôt notre prochain, c'est le Christ qui se présente à nous sous telle ou telle forme. Il se présente à nous souffrant dans les malades, indigent dans ceux qui éprouvent la misère, prisonnier dans ceux qui sont captifs, triste dans ceux qui pleurent. » Ici, on reconnaît un mélange du chapitre 25e de saint Matthieu et des évangiles des Béatitudes. Mais c'est la foi qui nous le montre ainsi dans ses membres. D'où le nom de charité surnaturelle. Et si nous ne l'y voyons pas, c'est que notre foi est faible, c'est que notre amour est imparfait. Voilà pourquoi saint Jean l'évangéliste dit « Si nous n'aimons pas notre prochain que nous voyons, comment pourrons-nous aimer Dieu que nous ne voyons pas ?» Si nous n'aimons pas Dieu sous la forme visible sous laquelle il se présente à nous, c'est-à-dire dans le prochain, puisque Dieu habite dans le prochain, comment pourrons-nous dire que nous l'aimons en lui-même dans sa divinité ? Là, on va aborder cette question de la relation entre l'amour de Dieu en lui-même dans sa divinité et l'amour du prochain. Il y a quelque chose de remarquable dans le plan de Dieu, tel qu'il s'est révélé à nous depuis l'incarnation du Seigneur Jésus. C'est la place considérable que prennent les personnes avec lesquelles nous vivons comme instrument de la distribution de la grâce de Dieu. La place considérable des personnes en chair et en os est celle que nous rencontrons, celle qui, que nous rencontrons aussi en chair et en os, que nous rencontrons les yeux dans les yeux, que nous rencontrons face à face. Ainsi, si nous voulons connaître la doctrine authentique du Christ, nous ne devons pas penser d'abord à nous adresser à Dieu directement. Nous ne devons pas non plus d'abord rechercher nous-mêmes dans la Bible en interprétant avec notre propre jugement, avec nos propres idées. Mais nous devons demander la doctrine du Christ au pasteur constitué pour gouverner l'Église. Ce matin, à la messe de 8h45 dans la basilique d'Ars, nous avons prié ensemble pour ceux qui sont ordonnés, prêtres, donc pasteurs constitués pour gouverner l'Église, et à tous ceux qui y fêtent ces jours-ci leur anniversaire d'ordination sacerdotale. Donc, vraiment, tout un soulèvement de prière, à la fois d'action de grâce et d'intercession pour ces pasteurs constitués pour gouverner l'Église. Je suis heureux de le redire en direct ce soir parce que nous avons aussi pensé d'une manière assez particulière à nos frères prêtres qui écoutent Radio Maria France et qui apportent de leur côté leur prière pour le rayonnement de Radio Maria France. Donc, demandez aux pasteurs. Mais ce sont des hommes comme nous, me direz-vous. Toujours l'utilisation de l'objection, comme dans la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, pour faire avancer la pensée. Peu importe que ce soit des hommes comme nous, c'est à eux qu'il faut aller, ils représentent le Christ, c'est le Christ qu'il faut voir en eux. Qui vous écoute, m'écoute, qui vous méprise, me méprise. Donc, la place considérable que prennent les personnes humaines. De même pour recevoir les sacrements. Nous devons les recevoir de la main d'hommes établis par le Christ. Le baptême, le pardon des péchés, c'est le Christ qui nous les donne, mais par l'intermédiaire d'un homme. Il en est de même encore pour la charité. Enfin, c'est là où intervient l'idée particulièrement puissante, j'allais dire originale de Don Marmion, et qui y développe ce que nous savons déjà au sujet du magistère de l'Église, au sujet des sacrements, et d'un seul coup, il fait une rupture dans l'enchaînement de la pensée, il dit, mais il en est de même pour la charité. On est dans quelque chose qui appartient aussi au plan de Dieu, avec ce mystère de l'incarnation qui ne se prolonge pas seulement dans le ministère sacerdotal, mais qui se prolonge aussi par le mystère du baptême, dans l'exercice de la charité fraternelle. Voulez-vous aimer Dieu? Voulez-vous aimer le Christ? Et nous le devons, puisque c'est le premier et le plus grand des commandements. Je vous ai dit qu'il allait y avoir une espèce d'enquête sur cette histoire de la charité envers Dieu et la charité fraternelle. Comment leur hiérarchie peut se comprendre? Donc là, Don Marmion commence par nous redire la hiérarchie, telle que le Seigneur Jésus l'a exprimée. Le premier et le plus grand commandement, aimer Dieu, bien sûr, aimer le Christ, aimer le Saint-Esprit. Aimer le prochain, si vous voulez aimer Dieu. Aimer les personnes humaines avec lesquelles vous vivez. Aimez-les parce que Dieu les destine toutes, comme vous, à la même béatitude éternelle. Béatitude méritée par Jésus. Parce que c'est la forme sous laquelle Dieu se présente à nous ici-bas. La forme sous laquelle Dieu se donne à aimer. Cela est tellement vrai que la conduite de Dieu à notre égard se règle sur la conduite que nous tenons nous-mêmes à l'égard du prochain. Dieu agit envers nous comme nous agissons envers nos frères. On se servira de la même mesure dont vous vous serez servi. Depuis l'incarnation, le Christ est tellement uni à l'humanité que tout l'amour que nous montrons surnaturellement rejaillit sur nous-mêmes. Le thème, c'est la charité fraternelle surnaturelle. Beaucoup de personnes, j'en suis sûr, trouveront ici la raison des difficultés, des tristesses, du peu d'épanouissement de leur vie intérieure. Les fameuses lamentations qui sont presque des murmures « je n'avance pas voilà. », la vie chrétienne ne progresse pas. La raison, ces personnes ne se donnent pas assez à Jésus dans la personne de ses membres. Elles se retiennent trop. Qu'elles donnent, et il leur sera donné, et donné abondamment. Car le Seigneur Jésus ne se laisse pas vaincre en amour. Qu'elles surmontent leur égoïsme, qu'elles se livrent au prochain avec générosité pour Dieu, et le Christ se livrera à elles avec plénitude. Parce qu'elles s'oublieront, le Christ se chargera d'elle. Et qui mieux que le Christ peut nous conduire à la béatitude? Ce n'est pas peu de choses d'aimer toujours et sans défaillance son prochain. Il y faut un amour fort et généreux, un amour qui ressemble à celui de Dieu. Voilà maintenant la discussion. Bien que l'amour de Dieu soit en lui-même, à cause de la transcendance de son objet, il s'agit de Dieu en personne quand même, bien que l'amour de Dieu soit plus parfait que l'amour du prochain, cependant, comme le motif doit être le même dans l'amour que nous portons à Dieu et dans celui que nous portons au prochain, donc la motivation, l'intention, souvent l'acte d'amour envers le prochain réclame plus d'intensité et recueille plus de mérite. Il suffit de rapprocher ça de l'acte de contrition lorsque on prend soin de le dire dans son intégralité. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon, infiniment aimable et que le péché te déplaît. Infiniment aimable. Parce que Dieu est infiniment aimable, il est plus facile à aimer qu'une personne humaine. Voilà pourquoi l'amour envers le prochain réclame plus d'intensité et recueille plus de mérite. Donc voilà l'affirmation. C'est plus méritoire, finalement, d'aimer le prochain que d'aimer la Sainte Trinité. Pourquoi cela? Parce que Dieu étant la beauté et la bonté même. Alors, on a une belle référence à la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, dans la première partie, la question 60. Dieu étant la beauté et la bonté même, infiniment aimable, infiniment beau, eh bien, il est plus facile de l'aimer. Dieu nous ayant montré un amour infini, sa grâce nous porte à l'aimer. Tandis que pour le prochain, nous ne sommes pas sans rencontrer en lui ou en nous des obstacles résultant des différents intérêts qui se font jour entre le prochain et nous. Le mystère de Dieu est toujours riche de tellement d'enseignements lorsque nous essayons de le scruter en lui-même. Et ainsi, on peut dire que jamais Dieu ne peut être fatigué de lui-même. C'est une sorte de très beau commentaire de l'affirmation de Saint Jean de la Croix qui dit il n'y a que pour lui-même que Dieu n'est ni surprenant ni déconcertant. En même temps, il y a le fait que Dieu se connaît lui-même, bien sûr, mais Dieu n'est jamais fatigué de lui-même. Si Dieu n'est jamais fatigué de lui-même, lorsque nous essayons d'aimer Dieu directement pour lui-même, nous ne sommes pas fatigués de Dieu. Alors que, évidemment, nous sommes facilement fatigués de nous-mêmes et fatigués du prochain. Et c'est à cause de cette fatigue de nous-mêmes que nous avons du mal à nous aimer, et c'est à cause de cette fatigue du prochain que nous avons du mal à l'aimer. Alors cette difficulté, a pour conséquence que la personne qui veut aimer a besoin de plus de ferveur de plus de générosité, de plus d'oubli d'elle-même, de ses propres sentiments, de ses vouloirs personnels, pour aimer le prochain que pour aimer Dieu. L'amour du prochain, pour se maintenir, réclame plus d'efforts que l'amour de Dieu. Évidemment, c'est transposer une autre discussion qu'on entend assez régulièrement, pour savoir est-ce que la vie consacrée à Dieu est aussi difficile que cela? Est-ce que c'est aussi difficile que ça d'avoir pour unique amour, unique grand amour, l'amour de toute ma vie, que ce soit le Seigneur? Est-ce que c'est si difficile que ça, comparé à la vie dans le mariage, où il faut que l'amour de toute ma vie, ce soit une personne humaine, avec son péché originel et avec ses péchés personnels? On voit comment les deux approches se répondent. Il se passe en ceci quelque chose de ce qui se produit quand une âme est dans la sécheresse intérieure. Il lui faut plus de générosité pour demeurer fidèle que quand elle est dans les consolations, de même dans la souffrance. Dieu va s'en servir de cette difficulté pour développer notre amour. Parce que dans ces moments de difficulté, nous devons davantage nous vaincre nous-mêmes, et cela, c'est une marque de la fermeté de la charité. L'amour fraternel, surnaturel, qui s'exerce envers le prochain, malgré des répugnances, des antipathies, ou des dissentiments naturels, manifestent chez la personne qui le possède une plus grande intensité de vie divine. Don Marion affirme « Je ne crains pas de dire qu'une personne qui se livre surnaturellement, sans réserve, au Christ dans la personne du prochain, aime beaucoup le Christ et en est infiniment aimée. Elle fera de grands progrès dans l'union avec le Seigneur Jésus. » Alors que si vous rencontrez une personne qui s'adonne fréquemment à l'oraison, dont nous parlions la semaine dernière, et qui malgré cela se ferme volontairement aux nécessités de son prochain, tenez pour assuré qu'il entre une grande part d'illusion dans sa vie de prière. Une grande part d'illusion. Car l'oraison ne va dans son terme qu'à nous livrer à la volonté de Dieu. Or, en se fermant au prochain, on se ferme au Christ, au désir le plus sacré du Christ. La véritable sainteté, donc celle qui n'est pas une illusion, rayonne par la charité et le don entier de soi-même. Alors attention aux contrefaçons et attention aux illusions. C'est la charité fraternelle surnaturelle qui nous permet d'essayer de mesurer la qualité de notre vie de prière, particulièrement de la vie d'oraison, comme de notre participation au sacrement. Si nous voulons demeurer unis au Seigneur Jésus, il importe extrêmement de voir si nous sommes unis aux membres de son corps mystique. Il faut y prendre garde. La moindre froideur voulue, délibérément retenue contre un de nos frères, constituera un obstacle plus ou moins grave à notre union avec le Seigneur Jésus. C'est toujours la tentative de réponse du directeur spirituel Colomba Marmion à ses pénitents qui viennent le voir et qui lui disent « Je ne progresse pas, il doit y avoir un obstacle ». Mais je ne vois pas lequel, donc je vais prier davantage, je vais lire davantage la Bible, je vais aller encore plus souvent à la messe, je vais me confesser plus souvent. Et à ce moment-là, Don Marmion, en racinant totalement sur l'Évangile, et en particulier sur l'Évangile selon Saint Jean et les lettres de Saint Jean, Don Marmion dit « Attention, qu'en est-il de la charité fraternelle ? » Est-ce que l'obstacle ne serait pas plutôt là que dans la quantité de prières, dans la quantité de pratiques et de dévotions. C'est pourquoi le Christ nous dit, si au moment de présenter notre offrande à l'autel, donc ce n'est pas seulement l'Eucharistie, finalement c'est toute prière, notre offrande à l'autel, c'est peut-être sur l'autel de notre cœur, pas seulement sur l'autel où on célèbre physiquement le sacrifice eucharistique. Si au moment de présenter notre offrande à l'autel, nous nous souvenons que notre frère a quelque chose contre nous, nous devons laisser là notre offrande, aller d'abord nous réconcilier avec notre frère, puis venir présenter notre don à Dieu. Saint Matthieu, chapitre 5, versets 23 et 24. Quand nous communions, nous recevons la substance du corps physique du Christ. Voilà, les choses sont encore une fois exprimées par Don Marmion avec la précision de saint Thomas d'Aquin. Quand nous communions, nous recevons la substance du corps physique du Christ. Nous devons aussi recevoir et accepter son corps mystique quand nous communions. Il est impossible que le Christ descende en nous et il soit un principe d'union si nous conservons du ressentiment contre un de ses membres. Une fois, ce sont des paroles qui semblent un peu sévères, mais qui, dans l'esprit du directeur spirituel Marmion, sont des paroles qui sont faites pour débloquer des chemins vers Dieu, en fait pour détruire des obstacles. Voilà. Donc, et du coup, il est un peu affirmatif, si on veut, il dit, il est impossible que le Christ, si nous conservons du ressentiment contre un frère. Saint Thomas d'Aquin qualifie de mensonge la communion sacrilège. Pourquoi cela? Parce qu'en s'approchant du Christ pour le recevoir par la communion, on proteste par le fait même qu'on lui est uni. Et si on est en état de péché grave, c'est-à-dire si on est détourné du Christ, s'approcher de lui constitue un mensonge. Alors, de même, toute proportion gardée, s'approcher du Christ, vouloir réaliser l'union avec lui, alors que nous excluons de notre amour un seul de ses membres, c'est commettre un mensonge. C'est vouloir diviser le Christ. Nous devons communier à ce que saint Augustin appelle le Christ total. Le Christ tête plus le Christ corps, le Christ membre. Alors, la référence à saint Augustin dans son traité sur l'unité de l'Église n'est absolument pas innocente parce que cette expression « diviser le Christ », saint Augustin ne l'utilise pas seulement au sujet des schismes et des hérésies qui déchiraient l'Église d'Afrique du Nord, mais il l'utilisait aussi pour le manque de charité fraternelle. Donc voilà, vous divisez le Christ. Il avait une très belle image en disant, vous cherchez à embrasser le Seigneur Jésus sur la joue, et pour l'embrasser sur la joue, vous montez sur ses pieds, vous écrasez les pieds du Christ pour vous hisser un peu plus haut. Et les pieds du Christ, ce sont les membres du corps du Christ, c'est-à-dire les pauvres ou simplement les frères. Pour embrasser sur la joue, que tout le monde le voit bien, ça ne vous dérange pas d'écraser une partie du corps du Christ qui sont les plus petits, qui sont en tout cas les frères. Donc, c'est cela, diviser le Christ. D'un côté, on embrasse, de l'autre, on écrase, on blesse une autre partie du corps. Saint Paul dit de son côté, le calice de bénédiction, la coupe eucharistique, le calice eucharistique, n'est-il pas une communion au sang du Christ? Et le pain que nous mangeons n'est-il pas une communion au corps du Christ? Puisqu'il n'y a qu'un seul pain, nous formons un seul corps, tout en étant plusieurs, car nous participons au même pain céleste. Saint Paul, qui avait si bien compris et qui exposait si vivement la doctrine du corps mystique, avait en horreur les discordes et les dissensions qui régnaient entre chrétiens. Vous voyez, nous retournons à cette expérience l'expérience fondatrice de saint Paul sur le chemin de Damas, avec le tu me persécutes. Pourquoi me persécuter? Et puis je suis Jésus que tu persécutes. Saint Paul disait alors, je vous exhorte au nom du Seigneur Jésus à avoir tous un même langage, qu'il n'y ait point de scission parmi vous, soyez parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Quelle raison Saint Paul donne, et celle-ci, avec une citation de la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du tout. Tous, en effet, soit juifs, soit grecs, soit hommes libres, soit esclaves, vous avez été baptisés dans le même esprit, vous êtes le corps du Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. De cette doctrine infiniment méditée par Don Marmion, va sortir la spiritualité de la charité fraternelle. Et une spiritualité qui essaye vraiment d'être tout entière dans cette attention à la présence du Seigneur Jésus. Cette charité va devoir revêtir des formes plus concrètes, des formes plus dans l'ordre de la pratique et de l'exercice. Notre charité doit être universelle. Nous ne savons que trop, mais cette parole nous condamne. La charité, en principe, n'exclut personne, car le Christ est mort pour tous, et tous sont appelés à faire partie de son royaume. Encore une fois, il s'agit du prochain qui est soit déjà maintenant habité par le Christ, soit qui un jour pourra l'être. Ainsi, la charité embrasse même les pécheurs, parce que pour eux demeure la possibilité de redevenir des membres vivants du corps du Christ. C'est l'enseignement du Seigneur Jésus scandaleux aux yeux et aux oreilles des pharisiens sur l'amour des pécheurs, alors que dans une vision rétrécie de la parole de Dieu de l'Ancien Testament, une grande partie de ces pharisiens professaient qu'à partir du moment où quelqu'un était devenu pécheur, on n'était plus tenu de l'aimer avec de la charité fraternelle, plus tenu d'exercer de la miséricorde à son égard, plus tenu de l'aimer. Cet amour doit revêtir différentes formes suivant l'état dans lequel se trouve le prochain. Notre amour ne doit pas être un amour de pure théorie qui s'exerce sur des abstractions, mais un amour qui se traduit par des actes appropriés. Alors, les états dans lesquels se trouve le prochain, peut-être nous allons être un peu étonnés parce qu'en fait ce sont des états immenses, ce sont soit les bienheureux du paradis. Alors, il y a un amour à ce moment-là de complaisance, d'action de grâce. Soit ce sont ceux qui sont au purgatoire. Alors, ça doit être un amour de miséricorde. Il faut qu'il y ait cette compassion spirituelle, cette compassion surnaturelle, là aussi, pour soulager ceux qui sont au purgatoire par nos prières et par l'offrande du sacrifice eucharistique. Et puis, l'autre état, eh bien, ce sont ceux qui sont sur la terre. Alors, ce qui est beau, c'est de nous rappeler que aimer ceux qui sont déjà au paradis, finalement, ça fait du bien, parce que c'est une charité fraternelle qui est quand même pas trop compliquée à exercer, dans la mesure où c'est une charité fraternelle dans la complaisance, dans l'action de grâce et dans le bonheur. Ne pas oublier les défunts, bien sûr. Et enfin, on va dire que c'est là où les choses se gâtent à nouveau, eh bien ceux qui sont sur la terre. Alors, sur la terre, le Christ se présente à nous dans la personne du prochain sous bien des formes diverses qui fournissent à notre charité fraternelle des modes variés d'exercice. mais il y a un degré et un ordre à observer. Alors, je suis assez content que nous puissions terminer sur ces mots de Don Marmion, qui reflètent sa belle humanité, et qui viennent nous dire quelque chose au sujet de la période d'été, la période des vacances et du repos. Don Marmion n'hésite pas à dire « Le prochain, c'est d'abord ceux qui nous sont le plus étroitement unis par les liens du sang. » Voilà, alors vous allez me dire, c'est peut-être l'Irlandais qui parle avec cette force des liens du sang, mais dans cette hiérarchie, dans cet ordre à observer, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Alors, peut-être pas trop resserrer l'expression « lien du sang », parce que, évidemment, les liens de l'alliance matrimoniale ne sont pas exactement des liens du sang, mais ce sont des liens de la famille. Ce sont les liens de cet amour très particulier, cette charité fraternelle très particulière, qui s'appelle la charité conjugale. Pourquoi affirmer qu'on va commencer par les liens du sang ? Eh bien, c'est une reprise grande parole de la tradition de l'Église. Ici non plus, la grâce ne bouleverse pas l'ordre établi par la nature. La grâce suppose la nature, mais ne la détruit pas. Ensuite, l'exercice de la charité matérielle va demander à être concilié avec la prudence surnaturelle. Un père de famille ne peut pas se dépouiller de toute sa fortune en faveur des pauvres au détriment de ses enfants. Donc on est dans la même nébuleuse du mystère de la vie de famille et de la grande obligation de cette charité fraternelle, surnaturelle, à l'égard des membres de sa famille. Comme la vertu surnaturelle va réclamer de ne pas châtier trop fortement ceux qui nous entourent. C'est un des aspects de la charité fraternelle. Il n'y a guère de meilleure preuve du pardon qu'on puisse donner que de prier pour ceux qui nous ont offensés. Aimer surnaturellement le prochain, une charité surnaturelle, c'est l'aimer en vue de Dieu pour lui procurer ou lui conserver la grâce de Dieu qui le mène à la béatitude éternelle. Donc, on n'est pas dans une charité de sentiments, d'émotions, on est dans la charité fondamentale qui est de vouloir pour le prochain, la vie éternelle, vouloir le salut éternel. Aimer le prochain, c'est tout faire pour qu'il puisse aller vers la béatitude éternelle. Aimer, c'est vouloir du bien, et c'est vouloir le bien suprême qui est la vie éternelle. Si vous voulez, c'est sur ces mots que nous pouvons conclure ce parcours avec Don Marmion, le bienheureux Colomba Marmion, cette imitation de Dieu, cette imitation de Dieu qui nous veut du bien, Dieu qui aime le monde, Dieu qui a cette capacité de se tourner vers nous, les créatures, Dieu qui pense aux autres avec une bonté sans mélange. Et si Dieu pense aux autres avec une bonté sans mélange, et si Dieu les emmène vers la vie éternelle, notre imitation de Dieu, que nous allons appeler charité fraternelle, notre imitation de Dieu va être de faire tout ce que nous pouvons, avec tous les moyens qui sont à notre disposition, pour obtenir pour nos frères la vie éternelle, et avec sa grâce, pour les mener nous-mêmes jusqu'à la vie éternelle. Il me semble que comme devoir de vacances, c'est un très beau devoir de vacances.
Effectivement, Père.
Seigneur nous bénit.
On a du boulot, mais voilà, je savais que vous alliez nous laisser du travail, Père.
Ah oui, mais c'est du beau travail quand même, non ?
Oui, c'est du beau travail.
Je me permets de répéter, penser aux autres avec une bonté sans mélange. Ça va, ça nous fait penser à ce que nous ferons, si Dieu veut, à la saison prochaine, avec la bonté telle que le père Faber en parle, le père Frédéric Faber. Au revoir.
Très bientôt, au revoir.